24 janvier 1991, les souverains anonymes reçoivent un grand chanteur, mais surtout un grand homme. Écoute ça.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous, nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère.
Je pense qu'un jour, les hommes vont vivre d'une façon plus fraternelle. La fraternité humaine, c'est pas, ça va pas avoir lieu dans 20 ans.
Moi, je pense que la guerre, ça va finir par finir à un moment donné. Ça va finir par finir. Moi, je pense que le plus grand crime contre l'humanité, c'est la conscription. Puis je pense que les soldats, au flanc, finissent par comprendre qu'ils sont responsables de ce qu'ils font.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mon nom est Raymond Lévesque. Ça fait plaisir de vous saluer et de vous présenter par la même occasion une émission fort sympathique, Souverain Anonyme.
Quand les hommes ne vivront plus
de vol et de viol,
quand les hommes ne vivront plus
d'illusions et de drogue,
quand les hommes ne vivront plus
du mal de vivre, et quand les hommes vivront d'amour,
il n'y aura plus de Bordeaux
sur la terre.
Bon après-midi parmi nous, mon nom c'est Michel.
On arrive sur la planète avec les mains, les pieds, la tête et puis un peu de remplissage entre le ventre et le visage. On vit de 20 à 60 ans, mais l'idée d'hiver et de printemps, on croit que ça va durer tout beau. Puis on finit par y laisser sa peau.
Bonjour et bienvenue, Monsieur Lévesque. Aujourd'hui, c'est un honneur et un plaisir très particulier que de recevoir parmi nous les souverains anonymes, le chanteur, le poète et l'homme vivant d'amour, Raymond Lévesque.
D'abord, M. Lévesque, dites-nous, comment va votre santé?
Oui, ben, ça va, merci, j'ai assez. Ben, je rajeunis pas, mais enfin, ça va.
Te souviens-tu, Paulin, lorsque nous étions rois, au royaume du vin, que nous faisions la loi jusqu'au petit matin, dans les bals de quartier, où nous allions trinquer, où nous allions trinquer. Le patron, bon garçon, nous laissait déferler dans un tas de jurons nos opinions sacrées. Nous refaisions le monde devant la table ronde et des petits doublons et des petits doublons.
Moi, mon père était fonctionnaire à Québec, puis il est arrivé à Montréal, il est revenu à Montréal en 1942, j'avais 14 ans. Alors là, c'est là que ça a commencé, les problèmes. C'est que moi, j'allais, à ce moment-là, il y a une école qui s'appelle l'École Ollier, qui est située au coin de la rue de Drolette et de la rue des Pins. C'est une très vieille école, l'école Ollier. C'est une école qu'ils ont refait la bâtisse, bien sûr, mais l'école elle-même est là depuis au moins une centaine d'années. Le poète Émile Nelligan allait à l'école Ollier. Et Hubert Raquin, l'écrivain, allait à l'école Ollier. Alors, l'école Ollier, c'est une école de tough. Ce qu'on appelle une école de tough. L'école Ollier, c'est les jeunes qui allaient à l'école Ollier, ça sortait de des familles aussi qui avaient de la chicane en permanence. Alors, quand ils arrivaient dans la cour d'école, ils continuaient à chicane qu'ils avaient pogné chez eux. Alors, c'est-à-dire que dans l'école Ollier, on se faisait casser la gueule régulièrement. Alors, moi, je venais d'une famille qui n'était pas du tout du genre de famille des élèves, là. Mais comme j'étais dans cette école-là, je me faisais casser la gueule régulièrement. parce que j'ai jamais été physiquement, très fort. Alors, c'est-à-dire que je mangeais des volets. Alors, je me suis écœuré. Puis en 1944, j'ai lâché l'école. J'avais 16 ans. Puis là, j'ai commencé à bomber. Moi, j'étais à 16-17 ans. J'étais un bum. Je bombais sa main. J'ai commencé à travailler comme boss boy, qui s'appelait dans les clubs. Comme je vous dis, dans ce temps-là, il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas de télévision. Il y avait les gens, quand ils voulaient voir le spectacle, qui allaient dans les clubs. Puis des clubs, il y en avait. C'était pas ça qui manquait. Puis il y avait des spectacles partout. Puis boss boy, ben c'était pas compliqué. Pas besoin d'un cours classique, mais boss boy. C'est-à-dire que je ramassais les bouteilles vides, puis je vidais les cendriers, Chris, les caisses de bière, tu sais, on avait en dessous de la table, là, de service, là, on avait une caisse de bière vide, puis on remplissait, puis on la met en cuisine, puis on a un autre. En tout cas, c'était pas à fin, c'était pas très compliqué. Sauf que, dans ce milieu-là, dans le temps, à Montréal, c'est quasiment inexistant aujourd'hui, comparativement à ce que c'était dans ma jeunesse. Il y avait ce qu'on appelait la PEG, il y avait la GAF. Puis c'était les autres qui contrôlaient tout, qui contrôlaient les clubs. Puis nous autres, les boss boys, on était très impressionnés par les gars de la GAF. Quand il y avait les gars de la GAF qui venaient dans le club, qui arrivaient, ils étaient toujours bien habillés. Il y avait une montre, il y avait des bagues, il y avait une belle fille avec eux autres. Puis nous autres, les boss boys, ça nous impressionnait. Alors, on rêvait de devenir nous aussi comme eux autres, d'avoir un beau manteau, une belle montre, puis une belle fille. C'est le milieu dans lequel je vivais. Puis on travaillait, moi je me rappelle qu'on rentrait sur le plancher à 7 heures. Le soir, on sortait à 7 heures le matin. C'est-à-dire qu'on faisait 12 heures sur le plancher. C'est-à-dire que vers les 2 heures de la nuit, dans le bruit, la fumée, la musique, puis les batailles. Tu sais, il y avait des batailles, il y avait au moins 4-5 grosses batailles tous les soirs. Puis il y avait les bancheurs qui étaient là pour ça. Alors, c'était fatigant, ce chénaire. Ça fait que vers les 2 heures du matin, pour se tenir le coup, on ramassait ce qu'on appelait ces tables, on ramassait les scores. C'est-à-dire qu'on ramassait des fonds de bière, des fonds de scotch, des fonds de cognac. On ramassait tout ce que les gars avaient laissé, on ramassait ça. On avait chacun une petite cachette dans la cuisine où on mettait nos scores. Puis quand on commençait à être fatigué vers 2-3 heures du matin, là, on buvait nos scores. Puis là, quand on était bien sous, on était couché. C'est comme ça que ça marche. Dans ce milieu-là, dans le milieu où je vivais, notre discussion, c'était les hold-up. Parce que on rêvait tous de faire un hold-up. Tout le monde là-dedans, là, on n'avait rien que ça dans la tête, de faire un hold-up, faire la passe, comme les gars de la GAF qui étaient là. Moi, j'ai grandi là-dedans, dans ce milieu-là. Ma jeunesse, ça n'a pas été une jeunesse très, très éloquente. Et si je me suis sorti de ça, c'est parce que c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une musicienne. Puis quand j'étais jeune, elle m'a montré la musique. Pas parce que je voulais. Parce que quand t'es jeune, t'as pas le goût de t'atteler sur le piano. T'as plus le goût d'aller jouer au hockey ou bien jouer au baseball. Mais ma grand-mère était grande, pas ta forte. Puis elle me pognait par le collet, puis elle m'assoyait sur le piano, puis elle avait une assez grande baguette, puis elle me tapait sur les doigts, puis elle a appris la musique contre moi, contre ma propre volonté. Ma mère me servait, cette grand-mère, parce que si j'avais pas montré la musique, là, j'avais pas l'instruction, j'avais rien. C'est ma grand-mère qui m'a sauvé la vie, parce que... En montrant la musique, ben, les circonstances ont fait que j'ai commencé à écrire des chansons.
Te souviens-tu, Paulin, lorsque nous étions rois, et que chaque matin, nous avions dans les bras une belle catin, les yeux encore chargés, la dernière soirée, qui s'appelait Simone, qui s'appelait Marco, qui s'appelait personne, un nom c'est idiot, elles étaient là, c'est tout, en robe ou pas du tout, et puis nous nous aimions, et puis nous nous aimions. C'était le temps de l'amitié, t'en souviens-tu, ami perdu? C'était le temps de la gaieté, le beau temps qui ne revient plus, le beau temps qui ne revient plus, le beau temps qui ne revient plus.
Par les mains dans le même système, derrière les murs, café crème.
Vous êtes revenu en 1959 parmi nous, de la France. Si Maurice Duplessis avait resté au pouvoir, est-ce que vous seriez revenu parmi nous?
C'est en 1958. Moi, je suis revenu le 23 décembre 1958. Puis la grève de Radio-Canada a commencé le 29 décembre 1958. Puis cette grève-là, qui devait durer 15 jours, a duré quasiment 9 à 10 mois. C'est-à-dire que tous les artistes, là, on n'avait pas de travail. Alors, moi, je suis revenu avec tous les changements. La grève de Radio-Canada, la mort de Duplessis en 59. Mais quand je suis arrivé, il n'était pas encore mort. Mais il est mort pas longtemps après. Je ne sais pas s'il est mort quand je suis revenu, mais le gars, il est mort. Il est mort en 59, Duplessis. Duplessis, là, l'époque de Duplessis, là, moi, je l'ai connu dans ma jeunesse, là, je me rappelle. C'était pas une belle époque, pas en tout. Duplessis, c'était un voleur, c'était un bandit. Puis toute sa calice de gang, c'était tous des bandits. Des bandits légaux. Il y a deux sortes de bandits. Il y a les hors-la-loi, puis il y a ceux qui sont... qui sont légaux. Duplessis, lui, sa technique, c'est qu'il achetait tout le monde, par l'argent. Tout le monde vend quelque chose à Duplessis, fait que tout le monde se formait la gueule. Fait que c'est comme ça qu'il a gardé le pouvoir pendant si longtemps. Puis il volait les élections, il volait, oh, c'est les élections, il volait les boîtes, comment ça s'appelle ça, là, les boîtes de scrutin, il volait les boîtes de scrutin. Puis il y avait la police était à son service, puis c'était du matraquage. Puis les grèves dans ce temps-là, c'était écœurant. Les grévistes dans ce temps-là, là, ils étaient courageux, les grévistes, dans ce temps-là, parce qu'ils se faisaient rentrer dedans par la police à coup de matraque. Je pensais jamais qu'on s'en sortirait. C'est un dictateur. C'est comme Saddam Hussein. Mon père me disait toujours, quand on joue avec les cochons, on finit par se salir. Ça fait qu'il n'aimait pas ça, la politique.
Monsieur Lévesque, votre chanson, Quand les hommes vivront d'amour, traduit votre vision de la vie. De l'amour, ouais. De la guerre, de la paix et de la mort. Est-ce qu'on retrouve cette même vision sur d'autres de vos chansons?
Oh, ben moi, j'ai fait peut-être pas exactement des chansons dans le sens de Quand les hommes vont d'amour, mais moi, j'ai toujours fait des chansons plutôt sociales, des chansons que j'appelle les chansons engagées. J'ai fait des chansons sur les militaires. J'ai fait des chansons où je parle beaucoup de... J'ai rarement fait des chansons d'amour, mais dans le genre d'affaires de chanteurs de pommes, là, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait des chansons, moi, qui parlent de la vie, des chansons, ce qu'on appelle les chansons engagées. Moi.
Je trouve votre chanson, Quand les hommes vivront d'amour, à la fois pessimiste et optimiste. Son message est tragique. Mais dans la tristesse qu'elle nous procure en l'écoutant, on ressent un certain plaisir.
pessimiste.
Avez-vous absolument la même sensation quand vous l'écoutez ou la chantez?
Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens aiment cette chanson-là, parce que dans le fond, c'est pas une chanson qui est très optimiste, je suis bien d'accord avec vous. Mais les gens, ils n'écoutent pas les mots. Je me suis rendu compte de ça. Les gens n'écoutent pas. Les gens, ils retiennent deux, trois phrases d'une chanson, c'est tout. Ils n'écoutent pas vraiment. Ils n'écoutent pas les mots. Ils n'écoutent pas. Mais je me sens mort, mon frère, parce que pour moi, l'évolution humaine, c'est une chose qui se fait, qui n'est pas facile à faire, mais elle se fait avec le temps. Puis je pense qu'un jour, les hommes vont vivre d'une façon plus fraternelle. La fraternité humaine, c'est pas, ça va pas avoir lieu dans 20 ans, puis dans 30 ans. Ça va se faire graduellement. Je pense qu'on va y arriver. Je sais pas si on va ressusciter, mais une chose qui est sûre, c'est quand ça va arriver, une chose qui est sûre, c'est qu'on va être mort. Ça, c'est garanti, ça.
Est-ce qu'il y a un rapport d'inspiration entre cette chanson et les deux guerres que vous avez connues, M. Lévesque? La Deuxième Guerre mondiale et la guerre du Vietnam.
Moi, les hommes en amour, ça vient de la guerre d'Algérie. Puis les deux guerres ont duré chacune 7 ans. La guerre d'Indochine, ça a duré 7 ans. Puis la guerre d'Algérie, ça a duré 7 ans. Puis la guerre d'Algérie, c'est une des guerres coloniales. Puis ça, c'est des guerres... Enfin, ils sont pas plus rough que les autres, mais celle-là a été particulièrement dure. Après avoir connu la guerre avec les Allemands, après avoir connu la répression, la torture, mais les Français ont fait la même chose, pareil en Algérie. Puis c'était une guerre qui était très, très impopulaire en France. Tous les Français étaient contre cette guerre-là. Mais les gouvernements, hein, le peuple, là, c'est le dernier de leurs problèmes. Quand ils ont décidé de faire une guerre, ils la font. Hein, aux États-Unis, quand même, aux États-Unis, là, qui gueuleraient tout ce qu'ils voudront. D'ailleurs, en Irak, le gouvernement, ils ont décidé de la faire, puis ils la font. Bon. Alors, en Algérie, c'est pareil. Mais moi, c'est la guerre d'Algérie qui m'a inspiré cette chanson « Quand les hommes vont l'amour ». Parce que à Paris, on voyait la répression à Paris contre les Arabes. Il y avait beaucoup d'Arabes à Paris. Ils appelaient les ratons. Puis il y avait ce qu'ils appelaient les ratonnades. C'est-à-dire que la police, ils battaient les Algériens. C'est de là que ça vient quand les hommes vont l'amour. Moi, je pense que la guerre, ça va finir par finir à un moment donné. Ça va finir par finir. Moi, je pense que le plus grand crime contre l'humanité, c'est la conscription. Puis je pense que les soldats, au flanc qu'ils finissent par comprendre, qu'ils sont responsables de ce qu'ils font. On dit toujours « t'obéis ». Hein? C'est ça qu'ils disaient. Quand ils ont fait le procès, les Allemands, ils disaient « pas moi, moi j'obéissais ». Je faisais mon devoir, j'obéissais, je suivais les ordres. C'est faux. Il n'y a personne qui est obligé d'obéir. Puis, les gens, ils ont, c'est ça, les gouvernements qui ont inventé ça, qui ont inventé la déculpabilisation des soldats. Le soldat ne se sent jamais coupable. Lui, il va tuer toute la famille, puis il va coller une bombe sur toute une ville, puis il se sent pas responsable parce qu'il dit « Ce sont les ordres, je fais mon devoir. » Mais c'est un mensonge, c'est fou. Ça. Les jeunes prennent de plus en plus conscience du fait qu'ils n'ont pas à servir la guerre.
À part quand les hommes vivront d'amour, vous avez chanté beaucoup d'autres succès comme « Bozo les culottes » que vous avez composé au début des années 60. Monsieur Lévesque, quel est le rapport entre cette chanson et l'éveil politique du Québec à cette époque?
Ça, c'est une chanson qui date de 1963. Puis en 1963, il y a eu les premières manifestations de violence au Québec.
contre le système fédéral. Ça, c'était des jeunes en 63 qui ont fait ça. Des bombes dans les boîtes à lettres, puis cette affaire-là. Alors, à ce moment-là, à ma boîte, j'avais des clients. Beaucoup de clients, puis j'avais des jeunes qui venaient à moi. Puis j'ai connaissais ces jeunes-là, moi. Puis, mais je savais pas que c'est eux autres qui m'étaient... Quand il y a eu les bombes, là, tous les soirs, moi, je parlais de ça dans mon spectacle, parce que je faisais un spectacle qui s'appelle « D'actualité ». Je parlais toujours de l'actualité. Puis, bien, les jeunes qui mettaient les bombes, ils étaient là. Mais je savais pas que c'était eux autres. Puis, quand ils ont été arrêtés, j'ai vu leurs photos dans le journal. Là, j'ai retrouvé une partie de ma clientèle. Fait que j'étais surpris. Puis là, à la radio, les gens disaient, « Oh, ce sont des faux! Faut les pendre, faut les fusiller, faut ci, faut ça. » Mais ce que ces jeunes-là faisaient, ils le faisaient pour le peuple québécois. Hein, ils le faisaient pas pour de l'argent, quoi que ce soit. Ils le faisaient pour le peuple québécois. Puis, qui c'est qui se reverra contre eux autres? C'est le peuple québécois. Fait que moi, ça m'a écœuré. Puis c'est là que j'aurais écrit la chanson « Bonjour les culottes ». Ça, c'est tous des gars qui ont fait du temps, 3 ans, 5 ans. Puis ils me disaient que quand ils étaient en dedans, ils me disaient, on écoutait la chanson, puis ils disaient, on se sentait moins tout seul.
Il flottait dans son pantalon, de là lui venait son surnom, Bonjour les culottes. Et avec une 5e année, il savait à peine compter, Bonjour les culottes. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit, il travaillait, Bonjour les culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, Bonjour les culottes. Un jour, quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, Bonjour les culottes. Que les Anglais avaient les bonnes places et qu'il lui riait en pleine face, Bonjour les culottes. Il n'a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire, Bonjour les culottes. Si son élite, si son clergé, depuis toujours l'avait trempé, Bonjour les culottes. Il a volé de la dynamite, puis dans un quartier plein d'hypocrites, Bonjour les culottes. Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, Bonjour les culottes. Tout le pays s'est réveillé, et puis la police l'a pogné, Bonjour les culottes. On l'a vite entré en dedans, on l'a oublié depuis ce temps, Bonjour les culottes. Mais depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé, Bonjour les culottes. Nos politiciens à gogo, font les braves, font les pharaons, Bonjour les culottes. Ils réclament enfin tes droits, et puis les autres refusent pas, Bonjour les culottes. De peur qu'il y en ait d'autres comme toi, qui aient le goût de recommencer, Bonjour les culottes. Quand tu sortiras de prison, personne ne voudra savoir ton nom, Bonjour les culottes. Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié, Bonjour les culottes. Bonjour les culottes.
Son pantalon, de là lui venait son surnom, Bonjour les culottes. Avec une 5e année, il savait à peine compter, Bonjour les culottes. Un jour quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, Bonjour les culottes. Que les Anglais avaient les bonnes places et qu'on lui riait en pleine face, Bonjour les culottes. En tout cas, je parle de ça.
Quelle est votre opinion sur René Lévesque? Parce que j'ai su que quand vous avez quitté le parti, vous avez déchiré votre carte.
Ah ouais, ouais. Moi, René
Lévesque, pourquoi?
Quand il a pris le pouvoir en 76, là, la première chose qu'il a faite, il a dit, bon, mais écoutez, les gars, là, partons pas en peur, restons calmes, là, hein? On va y aller doucement, doucement, là. Puis là, là, il en parle plus, là, d'indépendance, là. Tu sais, il a mis ça dans le savoir, puis il était bien, bien prudent là-dessus, tu sais. Tu as fait une vraie... C'est ce qu'on appelle un gars qui n'a pas le courage de ses opinions. C'est pas en 3 mois ou en 2 mois d'information qu'on peut convaincre les gens. Il a perdu 4 ans. Puis s'il a perdu le référendum, c'est par sa faute. Puis après, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, ben, il a dit, écoutez, là, on en parle peu. On en parle peu, là. On va juste faire un bon gouvernement, tu sais. J'ai jamais vu un gars. D'ailleurs, j'ai écrit un livre contre lui, moi, qui s'appelle C'est à ton tour, René, mon cher. J'ai écrit un livre où j'ai tout descendu, parce que j'ai tout connu, moi, tout le monde-là. J'ai tout connu. Puis j'aurais garoché un crise de livre d'invente. Un livre cochon au bout. Puis ça m'a fait plaisir, pour ça, t'sais. Puis il n'y en a plus un qui me parle aujourd'hui. Il n'y a plus un de gars qui me parle. Puis le montant, ils peuvent rester chez eux. C'était un barnouche. Ils nous ont trahis. Ils nous ont cochonnés.
Vive la France, puis fuck la balance.
Et juste à vous écouter, j'ai le goût d'être indépendant. Votre dernier livre s'intitule « De voyage et d'orage ». Le personnage principal s'appelle Polo.
Ouais.
En lisant quelques chapitres de votre livre, je me suis demandé comment qualifier ce personnage. Un fou du roi, un anarchiste, un clown, un philosophe, un illuminé, un socialiste ou un ex-détenu de Bordeaux?
Non, pour moi, pour la couture, c'est un anarchiste. C'est un anarchiste, c'est un gars qui refuse la société.
J'ai commencé à le lire.
Ah.
Je trouve ça superbe.
Ah ouais?
Ouais. On dirait que c'est vous.
Ouais, parce que ça, c'est moi aussi. Ouais. Mais moi, je vais écrire des livres humoristiques. Là, j'ai un livre qui va sortir au mois de mai, qui s'appelle « La planète des monstres ». Les gens disent, parlent de Dieu, mais on n'a jamais vu Dieu. Hein? Ben, si on l'a jamais vu, moi, je dis toujours, si Dieu, si on ne le voit pas, c'est parce qu'il y a assez honte qui se cache. Il y avait juste à nous créer comme faux, tant qu'à créer une espèce, rien qu'à nous créer comme faux. Puis il vient nous faire des reproches, là, sacrément. Puis il veut nous juger à la fin des temps. Ben, à la fin des temps, c'est moi qui vais le juger, c'est pas lui qui va me juger, c'est pas sûr. Il y avait rien qu'à nous créer comme faux, c'est tout.
Bravo, M. Lévesque. Depuis que la guerre du Golfe est déclenchée...
Pardon?
Depuis que la guerre du Golfe est déclenchée...
Ouais.
Votre chanson... Quand les hommes vivront d'amour, elle tourne de plus en plus sur les ondes de radio.
Ouais.
Nous savons qu'elle existe en plusieurs versions. Vous l'avez chantée en espagnol, en anglais, en russe et d'autres langues. Mais il est certain qu'il n'existe pas de version arabe ni irakienne de votre chanson. Si le président George Bush et ses alliés avait plus d'imagination et un peu plus le sens de l'humour, il aurait envoyé une version arabe de votre chanson à Saddam Hussein. Et une guerre aurait pu être évitée. Il paraît que vous avez beaucoup de chansons inédites. Qu'est-ce qui vous empêche de les produire?
Moi, j'ai essayé de placer des chansons à Ginette Renault, Céline Dion, ces gens-là. Rien à faire. Ils ont leur propre gang, eux autres.
Pouvez-vous en chanter une chanson qui n'est pas populaire, que vous avez dans votre répertoire, la petite chanson, là?
Je sais une auberge fameuse où il n'y aura plus de misère. S'il y a des gueux, s'il y a des gueuses, ils y trouveront leur chaumière. La pluie qui fait tant de ravages n'aura plus droit à la page. Le passé qui toujours tourmente ne sera plus de la tourmente. Le temps, ce voilier de taille, ne sera plus de la bataille. Dans un silence grandiose, loin du froid et de toute chose, nous traverserons sans ombrage, dans un long, très long voyage, l'éternité et ses mesures, sans même user nos chaussures.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous, nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Qui auront au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants, de la sagesse, ici-bas c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours, mais nous nous serons morts, mon frère.
Raymond Lévesque, souverain homonyme, 15 ans, écoute ça.
Maman rend service à grand-mère.
On revient après cette pause.